Radio Starbit.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Je n'ai vu aucun pirate. La zone est très paisible maintenant. Aujourd'hui, les attaques ont vraiment baissé. Dans le temps, c'était difficile.
Un petit bateau au large de la Somalie dans des eaux parfois infestées de pirates pour éviter leur retour. L'opération Atalante, nous serons dans un instant à bord du Castilla qui lutte contre les attaques de pirates à l'abordage. C'est l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Afghanistan, en Suède, au Luxembourg. 18h50, bonsoir Bruxelles, l'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte. Quentin Dickinson nous racontera ce micmac entre la Cour européenne et le Royaume-Uni au sujet de ce fameux article 50 de la sortie de l'Union. 18h55, Le Monde à l'envers, et Jean-Marc Four qui a lu ce qu'on dit de nous et de nos soubresauts franco-français. Mais avant, c'est, disons, entre le Sénégal et le Quai Branly que je vous emmène. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Le débat est sorti comme une flèche au moment du rapport Savoie-Sarre. C'était à la fin du mois dernier. Il revient aujourd'hui à la faveur de l'ouverture à Dakar du tout premier musée des civilisations noires. Et l'objet de ce rapport, le débat, c'est faut-il rendre à l'Afrique ses œuvres d'art? Est-ce que rendre, c'est restituer tout simplement? Est-ce une forme de repentance post-coloniale? Le débat, évidemment, n'est pas tranché. C'est tout l'intérêt. On va y aller très vite dans ce fameux musée de Dakar. On y retrouvera Isabelle Pasquier. Et en attendant, bonsoir Maureen Murphy.
Bonsoir.
Vous êtes historienne de l'art, maîtresse de conférence à Paris 1, membre de l'Institut universitaire de Paris, spécialiste des arts modernes et contemporains d'Afrique, de l'histoire des expositions et des théories postcoloniales. Voilà, comme ça au moins, on a votre pédigré du début jusqu'à la fin. Maureen Murphy, pardon de vous poser la question comme ça, ça sert à quoi un musée, au fond? Est-ce qu'on fige l'art dans un lieu, dans un musée? Est-ce qu'on le fait circuler d'un lieu à l'autre? Parce que finalement, l'un des enjeux de cette histoire, c'est ça. À quoi ça sert, un musée?
C'est vrai que les débats se cristallisent autour du rôle du musée et depuis sa création, en tout cas en France au moment révolutionnaire, le musée est en question, enfin en tant que symbole, en tant que symbole d'autorité, de pouvoir, donc on peut se questionner et le musée a été souvent critiqué pour cette dimension politique, nationale voire nationaliste, et ici ça, c'est vrai que le débat éclate autour des liens entre la France et ses anciennes colonies, le musée est au cœur de ce débat.
Et comment se fait-il d'ailleurs, parce que moi je me suis posé la question en voyant son inauguration, que ce premier musée des civilisations noires à Dakar arrive si tardivement?
Alors c'est un musée qui a été voulu par le président Léopold Sédar Senghor dans les années 70, qui a failli être inauguré dans ces années-là, et qui était censé se rajouter au musée déjà existant. Il existait un musée dynamique pour l'ère moderne, un musée d'ethnographie, il y avait beaucoup de structures culturelles à Dakar, qui ont un petit peu baissé de régime depuis. Et des années plus tard, finalement, ce musée est inauguré, alors pas sous les termes de Senghor, c'est-à-dire que le bâtiment n'a rien à voir avec ce que Senghor avait prévu. Mmh. Il a été construit par des Chinois dans un cadre assez somptueux. Mais le titre même, le nom même de ce musée, Musée des civilisations noires, renoue avec les théories de la négritude, avec le panafricanisme, et relance une dynamique culturelle dans cette capitale sénégalaise.
Et relance donc aussi ce débat. Ce qu'on entend depuis le début de ce débat, c'est les objets doivent rentrer chez eux, en fait, comme quelque chose de purement identitaire. Est-ce que c'est en ces termes-là qu'il faut prendre le débat? Est-ce que oui, ces objets, au fond, rentrent chez eux?
Alors c'est vrai que le terme de restitution, il n'est pas neutre. Quand on dit restituer, ça veut dire qu'on souhaite rendre des biens mal acquis. Mmh. Et on peut s'interroger sur la portée symbolique de ce terme. Beaucoup de pays d'Afrique ont demandé la restitution de certaines œuvres dès les indépendances. Au Congo, par exemple, ça a été le cas. Et des objets ont été non pas restitués, mais rendus dans les années 70. Mmh. Et les Belges ont préféré utiliser ce terme, offrir des objets plutôt que restituer. En fait, ce qui se cache derrière ce terme, c'est cette idée d'accepter qu'il y a un problème lié à l'histoire coloniale. Et on a vraiment un problème en France, quand on aborde la question de l'histoire coloniale, pour en parler. Et ce débat cristallise toutes ces tensions, en fait, de manière presque caricaturale parfois, mais je pense que au moins ça ouvre la boîte de Pandore et ça permet de mettre les choses sur le tapis, même si c'est maladroit, violent.
Les termes qui sont employés dans le rapport Sarre-Savoie, c'est reconnaissance, réparation, restauration. Mmh. Au fond, il manque que le mot repentance quand même, c'est un peu ce qu'on leur a reproché d'ailleurs.
C'est vrai.
Alors, est-ce que ce sont les bons termes, selon vous, l'historienne de l'art, vous trouvez que ce sont les bons termes? Qu'est-ce qu'il faudrait dire, en fait, au fond?
Je pense qu'il faudrait déjà retracer l'histoire de l'arrivée de ces objets, retracer l'histoire qui dépasse et qui est bien plus large que la simple histoire coloniale. Les liens avec l'Afrique datent de la Renaissance du 15e siècle. On a des objets en ivoire sculpté qui datent de 1500, 1600. La majorité des objets arrivent après les années 60. Donc les liens entre l'Europe et l'Afrique sont longs. Ils sont contemporains. Je pense que se cristalliser sur l'époque coloniale, ça, c'est plus révélateur d'un malaise,
mais
d'un
mal-être. Mais la majorité de ces objets, moi, ce que j'avais compris, c'est que la majorité des objets datés, enfin, ont été, alors je ne sais pas si on dit pris ou enlevés ou, enfin, je ne sais pas quel terme du coup utiliser, mais entre 1885 et 1860, donc on est pile au cœur de la période coloniale, en fait.
Mais c'est ça qui est un peu problématique avec le rapport Savoie-Essart, c'est que ils disent des choses et ils en disent pas d'autres. Enfin, il y a un parti pris quand même dans leur rapport qui est problématique. Ils se concentrent sur les collections du Quai Branly. Or, si on voulait avoir une approche beaucoup plus mondialisée, on pourrait aussi montrer qu'il y a bien plus que ça. Et 70% des collections qui sont arrivées, qui ont quitté le continent africain, sont arrivées après les années 60.
Et comment, du coup, par quel biais, par quel chemin?
Alors, les raisons en sont multiples. Les guerres civiles qui éclatent au moment des indépendances, le marché de l'art aussi qui explose dans ces années-là. Il y a une vraie demande de la part de l'Europe, des États-Unis, des pillages de sites archéologiques, la montée de l'islam, et puis ce marché qui se met en place, des marchés qui circulent, qui achètent, qui vendent, des marchands africains, des marchands européens. Et le gros des collections sort à ce moment-là. Donc, ça change un peu le débat aussi quand on élargit le champ historique.
Mais on sait identifier les objets qui ont été, on va dire, spoliés, les objets qui ont été pris ou peut-être qui ont été achetés mais à des valeurs qui sont extrêmement moindres par rapport à leur réelle valeur. On sait identifier ces objets-là et ceux qui ont fait l'objet d'une vraie transaction sur le marché de l'art de manière beaucoup plus légale, on va dire. On sait ça ou pas?
Oui, on pourrait le faire de manière beaucoup plus explicite et je pense que c'est ce qui manque dans un musée tel que le musée du Quai Branly. C'est un discours sur l'arrivée de ces objets. Je vous donne un exemple. Un objet qui a été volé en 1931 lors de la mission Dakar-Djibouti par Marcel Griol, un reliquaire Kono du Mali. Michel Léris s'en offusque, écrit dans l'Afrique fantôme en 1934 qu'il est scandalisé, ils en volent plusieurs. Aujourd'hui, cet objet est exposé dans les salles du musée du Quai Branly sans que rien ne soit dit de cette condition de sortie de l'objet. Ça n'est pas normal.
Ça existe dans certains musées, autant que je sache, à Nantes, à Angoulême, est-ce que je me trompe?
Si, tout à fait.
On retrace des fois l'histoire de l'objet, y compris la manière dont il est arrivé dans cette collection-là.
Oui, il y a des musées peut-être plus petits, avec moins d'envergure internationale, moins d'exposition, moins de politique derrière. Enfin, c'est le musée Quai Branly Jacques Chirac, quand même, où cette histoire est explicitée, comme ça l'est fait en Allemagne, comme ça l'est fait aux États-Unis. Mais je pense que le musée du Quai Branly a encore beaucoup de travail à faire pour expliciter cette histoire.
Alors, on se pose beaucoup de questions sur les demandes de restitution aussi. Qui veut absolument récupérer effectivement ces objets? On sait que le Bénin est en pointe. Le Sénégal vient d'ouvrir ce musée des civilisations noires. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et vous y êtes à Dakar, vous avez pu le visiter, ce musée, vous avez eu cette chance. Racontez-nous un peu comment la question de la restitution est ressentie là où vous êtes.
Alors pour tout vous dire, ici c'est un sujet ultra, ultra sensible et j'ai ressenti un décalage, si vous voulez, entre les déclarations politiques et ce que ressentent les Sénégalais quand on discute comme ça avec eux. Cet après-midi, le président Macky Sall a donc inauguré le nouveau musée des civilisations noires et il a exprimé, je le cite, sa volonté d'un dialogue serein avec la France pour la restitution de ces objets provenant du Sénégal. Mais les propos des scientifiques, des artistes, de la société civile que j'ai rencontrés sont, on va dire, beaucoup moins diplomatiques. Pour eux, la question de la restitution, elle est vécue, on va dire, avec les tripes, dans la chair, dans le cœur. Et il y a urgence pour eux à retrouver ces objets qui sont des témoignages de leur passé, de leurs ancêtres. Alors, vous l'avez dit, l'inventaire des objets n'est pas encore complet, mais il y aurait en France environ 5000 objets originaires du Sénégal. Alors, ce sont des masques, des statuettes, des manuscrits, beaucoup d'objets de culte. Et ce matin, j'ai rencontré Fadel Barrault. Il fait partie de ceux qui ont créé le mouvement contestataire civique Yanamar au Sénégal. Et pour lui, la restitution, c'est une obligation, une question de justice pour que l'Afrique puisse enfin écrire son histoire.
Il s'agit d'œuvres qui ont été volées, qui ont été déconnectées de leur histoire et de leur historicité. Et pour les Africains, ce n'est pas seulement des œuvres d'art, mais c'est une partie d'eux-mêmes qui ont été volées et presque emprisonnées quelque part. Il faut aller prendre le visa de quelle manière pour aller voir ce que tes ancêtres ont produit par le passé. C'est incroyable, mais c'est incroyable, c'est juste hallucinant, c'est une question de justice. Ces œuvres ont été le médiateur d'un rapport de domination. Aujourd'hui, ils peuvent être le médiateur d'un rapport de dignité, d'égale dignité. Et c'est ça l'enjeu, parce que sinon, se continuer à favoriser ces sentiments anti-français qui vont se manifester par la violence qui n'arrange personne.
Isabelle, est-ce que vous êtes encore là ou est-ce qu'on vous a perdu? Voilà.
Bien sûr. Alors, vous savez qu'à Dakar, on réagit aussi aux propositions du gouvernement français de ne plus forcément tout restituer, et même pas forcément beaucoup d'œuvres, à part les 26 du Bénin, mais peut-être de les faire circuler sous forme de prêt. Eh bien, ça, c'est une proposition qui passe très très mal, et ça fait carrément sursauter le directeur du musée des civilisations noires, Amadi Boukoum.
Ce dont on aura besoin, on va demander à ce qu'on nous les rende. Mais on n'a pas besoin de tout. Je pense que tôt ou tard, les objets dont on aura besoin vont nous revenir. Ce qu'il faut éviter par contre, c'est le circuit de la circulation. Il coûte extrêmement cher. Par exemple, si vous voulez, entre guillemets, emprunter ce qui vous appartient, ce qui est assez cocasse, mais enfin ça arrive, vous empruntez de ce qui vous appartient et on vous demande des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, des assurances incroyables. Ça ne vaut pas le coup. Et ça, nous refusons d'être dans cette logique mercantile qui va créer une chaîne d'économie parallèle qui va continuer à ponctionner l'Afrique.
Merci beaucoup. Merci à vous, Isabelle Pasquier. Maureen Murphy, quand on entend le reportage d'Isabelle, ces objets ont été médiateurs d'un rapport de domination, c'est ce que dit l'un des interlocuteurs. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est vécu comme ça majoritairement par l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest?
Alors en tout cas, si on parle du cas du Sénégal, parce que l'Afrique en général, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que j'ai passé 6 mois récemment au Sénégal et on sent un sentiment de frustration, de ressentiment, des France dégage inscrit sur les murs. Enfin, il y a un besoin de renouer avec cette histoire, de la clarifier, et ça passe par les objets, puisque le débat a éclaté autour des objets. En même temps, on ne peut pas non plus tomber dans une façon de... Enfin, dans un rejet total et définitif des rapports historiques qui ont été noués entre la France et le Sénégal en particulier. Si on prend le cas des objets et qu'on dépassionne les débats, mais c'est là qu'on voit que le débat il est complètement politique et symbolique, mais je vous donne un exemple qui est quand même symptomatique ou en tout cas très fort, c'est la première pierre qui a été posée au Sénégal, au musée du Quai Branly, c'est une pierre mégalithique qui vient du Sénégal, qui date du paléolithique, qui pèse 4 tonnes. C'est la première pierre qui a été posée avant même la construction du musée du Quai Branly parce qu'elle pesait tellement lourd. C'est une pierre qui a été offerte, échangée par le Sénégal en 67 contre des tapisseries d'Aubusson. Donc c'est dans le cadre d'échanges diplomatiques. Il y a eu des cadeaux, il y a eu des échanges et il y a eu des échanges post-indépendance. Donc on ne peut pas tout balayer d'un revers de la main. Mais ce qui m'intéresse moi dans ce débat, c'est l'expression des ressentiments, des frustrations et les fins de non-recevoir des conservateurs qui disent que c'est de la repentance et qu'on n'a même pas besoin d'en discuter. Ça me dérange aussi parce qu'il y a nécessité d'en parler. Quand on voit des tensions pareilles, il faut en parler, il faut nouer le débat, il faut en profiter pour discuter justement.
Est-ce qu'on va se retrouver dans une espèce de situation bizarre d'objet otage en quelque sorte? Isabelle Pasquier racontait ce matin, parlait d'un sabre symbolique par exemple, qui a été prêté effectivement par la France au musée pour son ouverture et dont le patron du musée disait peut-être à moitié en plaisantant, on n'est pas sûr de le ramener, peut-être que c'est un aller simple. Est-ce qu'il peut y avoir des soucis de ce genre qui remettront le sujet clairement sur la table?
Non, je pense
pas. Est-ce que c'est une crainte ou pas du tout?
Non, enfin, c'est des débats médiatisés sur le feu de l'action, enfin, concrètement. Ça va pas se passer comme ça, mais ça déclenche des discussions et ça réveille des mauvais souvenirs. Et je pense qu'il faut en profiter pour changer la donne, changer la muséographie au musée du Quai Branly, dialoguer et profiter de ce débat qui est quand même unique et qui nécessite d'être poursuivi.
Est-ce que l'idée du prêt, l'idée des allers-retours dont on parlait tout à l'heure, qui a l'air rejetée par le Sénégal, est-ce que c'est une piste au contraire qui est une piste à explorer? En effet, faire circuler des œuvres, les faire se promener, est-ce que c'est quelque chose que vous, les historiens de l'art par exemple, auraient plutôt tendance à approuver?
Bon, je pense que ça, c'est du point de vue des conservateurs qu'il faut l'envisager, mais il y a aussi des situations qui sont quand même paradoxales. à Abomey, dans les musées d'Abomey, vous avez des copies réalisées d'après les originaux qui sont exposés au musée du Quai Branly.
Dans une Tribune du Monde, c'est intéressant. Pourquoi pas l'inverse, en effet?
Pourquoi pas montrer les originaux à Abomey et les copies à Paris? Ça pourrait être intéressant.
Vous avez donné un exemple, celui du Congo et de la Belgique. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et surtout, comment ça se passe, en fait, désormais? Moi, j'ai lu des choses, je ne sais pas si c'est réellement juste ou pas, sur le fait qu'un certain nombre d'objets qui étaient retournés ont finalement été perdus. Est-ce que lorsque les échanges ont eu lieu, les retours ont eu lieu, ça s'est de toute façon toujours bien passé ou pas?
Non, ça s'est pas toujours bien passé. Enfin, pour le cas du Congo, les objets qui ont été rendus, pour ne pas dire restitués, une vingtaine ont été perdus, volés, vendus, que sais-je. Ce qui ne veut pas dire que c'est un argument contre la restitution.
Je ne préjuge rien ce qui peut se passer maintenant, bien sûr.
On peut donner l'exemple du trésor de Ségou, qui a été saisi à la fin du 19e siècle comme butin de guerre et dont la France a perdu une trentaine d'objets qui ont été volés.
Le débat n'est pas clos, il est passionnant. Maureen Murphy, merci beaucoup
merci.
De votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe au large de la Somalie, dans un bateau qui lutte contre la piraterie. Ce sera l'escale reportage sous les radars et Amélie Perrier en Afghanistan avec l'histoire d'un jeune femme de Messi. Vous avez déjà entendu, l'épilogue n'est pas marrant du tout. Vous le découvrirez, nous irons aussi en Suède et au Luxembourg. Bonsoir Bruxelles, l'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte. Et Quentin Dickinson qui nous débrouillera l'article 50 de sortie de l'Union et la Cour européenne. Et puis le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Le point commun, Jean-Marc, de ceux qui nous regardent à travers tous les mouvements proches des gilets jaunes.
Alors ce soir, deux petits conseils de lecture en fait. Vous verrez comment on peut analyser cette crise des gilets jaunes à travers le regard de deux grands intellectuels étrangers sur les mouvements populistes.
Et on verra ça ensemble, il sera 18h55. Merci Jean-Marc. Le tour de la planète n'est pas fini, il nous emmène du côté de chez Van Morrison. Tiens, Moondance sur France Inter, à tout de suite. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yeah, I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night magic seem to whisper and hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just travel inside, then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Qui s'installe toujours en avance, dit que c'est le un faux Van Morrison qui chante, mais n'importe quoi. Allez,
c'est le vrai.
Moondance sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Расмахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier. On commence par Amélie, une histoire de conte de fées d'abord. Enfin, c'est comme ça qu'au début, elle nous a été présentée. Mais la guerre, l'obscurantisme aussi ont écrit une fin pas du tout heureuse.
Ouais, c'est l'histoire du petit Messi afghan, Murtaza Ahmadi. En 2016, il avait 6 ans. Sa photo avait fait le tour du monde où l'on voyait le garçon porter un maillot de foot bricolé avec un sac plastique à rayures bleues et blanches aux couleurs de la sélection argentine. Argentine et dans le dos le nom de son idole, Messi. Il avait alors pu rencontrer son héros au Qatar lors d'un match amical du Barça. Vous vous souvenez peut-être des images, hein, Murtaza, il se cramponne à Messi. C'est un arbitre qui doit le prendre dans ses bras pour le sortir gentiment de la pelouse. Mais 2 ans plus tard, l'AFP vient de le retrouver à Kaboul, en Afghanistan. Le mois dernier, la famille a été obligée de fuir sa région, Jaghori, sous la menace des talibans. Écoutez ce que dit sa maman. Je ne sais pas pourquoi les talibans ont fait de Murtaza leur ennemi, mais il est devenu connu et donc ça peut l'expliquer. Les talibans ont dit qu'ils le réduiraient en pièces s'ils le capturaient. Alors, la famille Ahmadi fait partie des 300 000 Afghans contraints de quitter leur maison depuis le début de l'année pour fuir l'offensive des talibans. Cette famille est issue aussi de l'ethnie Hazara, chiite, devenue une cible des talibans sunnites et le petit garçon une cible prioritaire, donc avec sa soudaine notoriété. Murtaza, lui, voudrait partir loin de tout ça et rejoindre son idole. J'aime beaucoup Messi, dit-il, et je voudrais vivre près de lui. Il devrait me sortir d'ici. Alors pour sa famille le cache à Kaboul. Murtaza, lui, aimerait seulement récupérer les maillots et le ballon offerts par Messi qu'il a dû laisser dans son exil juste pour jouer avec.
Elle est un peu plus âgée, elle a 15 ans. L'appel qu'elle lance est pour sauver la planète.
Greta Thunberg est suédoise, une ado devenue star dans son pays et invitée ces jours-ci à parler à la tribune de la COP24 en Pologne. We have to do something. Et elle dit, on doit faire quelque chose. Ne pas avoir d'espoir, c'est pas une excuse pour ne rien faire. Ce dont on a plus besoin que d'espoir, ce sont des actes. Greta, atteinte du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, et d'une lucidité, d'une franchise étonnante, elle a calculé que quand elle aurait 45 ans, dans 30 ans donc, des dizaines de millions de terriens auront dû fuir leur maison à cause d'épisodes météo extrêmes, du dérèglement climatique, des feux de forêt attisés par les sécheresses et du manque de nourriture. Et face aux dirigeants qui la regardent, dans les conférences internationales, au mieux d'un air amusé et parfois condescendant, elle a ce message. Les politiques ne connaissent rien à la crise climatique, dit-elle. Quand je leur en parle, ils se mettent à pleurer. Ils sont les premiers responsables. Ils ne réalisent pas à quel point ils ont le pouvoir et tout ce qu'ils peuvent faire. Mais simplement, ils ne font rien. Alors voilà, Greta Thunberg se bat avec ses armes. Elle est devenue célèbre en Suède en commençant par manifester seule chaque semaine devant le Parlement. Et depuis la rentrée, elle fait la grève de l'école le vendredi. Elle appelle ses camarades à la suivre. Plusieurs milliers le font. Une grève jusqu'à ce que la Suède respecte l'accord de Paris et réduise ses émissions polluantes.
Eh ben dis donc, on ne sait pas si Greta sera entendue en tout cas à la COP24 qui se déroule en ce moment ou si elle sera entendue dans son pays. Le Luxembourg, en tout cas, lui, agit.
Oui, comme le demande l'ado, le Grand-Duché va devenir le premier État au monde à proposer la gratuité pour tous ces transports publics. Quelques villes s'y sont mises, hein, en France, à Aubagne ou à Dunkerque. Mais là, c'est une décision à l'échelle nationale. Plus de tickets payants pour les trains, les trams et les bus d'ici l'été prochain. Une solution aux embouteillages monstrueux sur le territoire. Le gouvernement de Xavier Bettel, qui a entamé hier un second mandat, réalise donc sa promesse de campagne. Le Parti démocrate de Bettel s'est allié avec les socialistes et les écologistes. Et parmi les autres mesures fortes, hein, promises par le nouveau chef du gouvernement luxembourgeois, il y a aussi la légalisation du cannabis et puis de nouveaux jours fériés. Ça, on prend.
Oui, alors est-ce qu'on peut fumer du cannabis dans un bus un jour férié? Ah, Amélie.
Faudra aller voir au Luxembourg.
Voilà, vous me direz ça demain, merci.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Allez, tout le monde sur le pont. Paris à virer, c'est en bateau que je vous emmène dans l'escale reportage ce soir. Ça tangue un peu. Nous sommes en face de la Somalie, dans le golfe d'Aden, dans un couloir maritime qui voit passer 20% du commerce mondial. Entre 2005 et 2012, c'était devenu un très haut lieu de piraterie. Souvenez-vous, des pirates armés de kalachnikov qui prenaient en otage des navires marchands contre rançon, opérant parfois jusqu'à des centaines de kilomètres des côtes somaliennes. Bonsoir, Laure Broulard.
Bonsoir Fabienne.
Laure, en 2008, l'Union européenne, devant cette situation, lançait une opération qui s'appelle l'opération Atalante pour lutter donc contre les pirates. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous allez nous le dire, vous êtes à bord du Castilla, navire militaire espagnol qui patrouille dans l'océan Indien.
Ahora mismo estamos aquí.
Maintenant, on est au large des côtes de Somalie, sud 8°30 et est 50°30.
Et on va à combien de nœuds?
À 6 nœuds. Je suis le capitaine de l'infanterie marine Jesús Albert et ça fait 3 mois que je suis à bord du Castilla. Le Castilla, comme j'ai dit, c'est un navire d'assaut amphibie. Il a une longueur de 160 mètres et une hauteur de 48,2 mètres. Il est capable de transporter jusqu'à 4 hélicoptères. Maintenant, on en a 2 pour la mission.
Le Castilla, c'est une véritable cité flottante avec un hôpital, une boulangerie, mais aussi une prison pour pirates. C'est l'un des deux navires qui compose aujourd'hui l'opération Atalante. Avec l'aide de 2 avions basés à Djibouti, ils ont pour mission de lutter contre la piraterie dans une zone de plus de 8 millions de kilomètres carrés, du sud de la mer Rouge aux confins de l'océan Indien. Ce matin, le petit déjeuner est écourté, un boutre yéménite est en vue. Et nous retrouvons le lieutenant Junior Casado sur ce qu'on appelle la plage du navire.
Nous allons effectuer ce qu'on appelle une approche amicale. C'est une procédure journalière et tout à fait normale. Nous allons rendre visite à ce boutre yéménite. Puis nous expliquons le but de l'opération Atalante et nous échangeons nos expériences en mer. On leur demande s'ils ont vu des activités de piraterie ou toute autre activité illégale.
À bord du Doumia, un petit boutre bleu et blanc, cette pêcheur s'affaire au milieu de gros thons qui sèchent au soleil. Asma Saidi Ali, d'origine tanzanienne, se réjouit du retour de la sécurité sous le regard des militaires espagnols.
Je n'ai vu aucun pirate. La zone est très paisible maintenant. Je suis heureux que ces gens protègent les pêcheurs. S'ils n'étaient pas là, il y aurait beaucoup de personnes malhonnêtes. Aujourd'hui, les attaques ont vraiment baissé. Dans le temps, c'était difficile. Je ne veux même pas y penser.
En 2011, au plus fort de la crise, les pirates somaliens détenaient 736 otages et 32 navires. Aujourd'hui, le chiffre est tombé à zéro. Il faut dire qu'outre la présence militaire internationale, les navires marchands ont maintenant des équipes de sécurité armées à bord et des citadelles pour protéger l'équipage. Mais en 2017, il y a eu une recrudescence de la piraterie avec 7 attaques, dont 2 où les pirates ont réussi à prendre possession des navires. Aujourd'hui, l'amiral Alfonso Pérez de Nanclares, le commandant de la force de l'UE, alerte donc sur un possible retour de la piraterie dans la zone.
La menace est maîtrisée, mais ce que nous savons, c'est que les pirates ont toujours l'intention et la capacité de passer à l'action. Aujourd'hui, les anciens pirates se sont probablement reconvertis dans d'autres activités criminelles et ce n'est pas très compliqué pour eux de se procurer des bateaux, des échelles et des armes.
Il faut dire qu'au Puntland, état semi-autonome au nord-ouest de la Somalie, les débouchés sont rares. Dans les villages côtiers, les infrastructures manquent et les pêcheurs se plaignent de la pêche illégale. Ils accusent des chalutiers étrangers de les harceler et de détruire les fonds marins, mettant en péril leur seul moyen de subsistance. Or, c'était précisément la raison invoquée par les pirates pour justifier leur action. À ce jour, le gouvernement fédéral somalien et les États régionaux ne se sont toujours pas mis d'accord sur les procédures d'attribution des licences de pêche et sur le partage des revenus du secteur, ce qui laisse la porte ouverte à des abus. Et les autorités locales peinent à sécuriser la côte. Marco Higgins travaille pour le programme de renforcement des capacités locales de l'Union européenne, UCAP Somalia.
La criminalité maritime est multiforme ici. On entend souvent parler de piraterie, mais il faut aussi penser au trafic d'êtres humains, au trafic d'armes. Il y a toujours des rumeurs de déversement illégal de produits divers. Et puis, bien sûr, la pêche illégale. Et face à l'échelle de ces activités, à longueur de la côte somalienne et à la géographie du pays qui permettent aux criminels de disparaître facilement, les forces somaliennes ont peu de moyens, peu de bateaux, pas d'avions. C'est donc un véritable défi.
Dernière soirée sur le Castilla. La force européenne reçoit une alerte. On fait le point avec Ricardo Leoni, le chef d'équipe.
Nous avons reçu des informations concernant un incident à 17h12, heure locale. Un petit bateau a ouvert le feu sur un navire transporteur qui avait une équipe de sécurité privée à bord et qui a riposté. Après cela, le skiff est parti et le capitaine du navire a confirmé que tout l'équipage était sain et sauf.
Alors il s'agissait de l'attaque du MV KSL Sydney, un navire battant pavillon hongkongais, le 16 octobre dernier. C'était la première attaque en 8 mois. 10 jours plus tard, le bateau pirate était retrouvé dans une petite baie de la côte somalienne et détruit par la force Atalante. Les pirates, eux, n'ont pas été rattrapés.
J'ajoute que le mandat de l'opération Atalante qu'on vient de vous raconter a récemment été étendu jusqu'en 2020. La question qui reste en suspens est de savoir quand les autorités somaliennes seront capables de reprendre le relais. Laure Broulard en reportage pour Un Jour dans le Monde. Merci beaucoup. Vie sur France Inter, Azeman.
As a man.
Elle parle comme un homme, Anna Calvi. Elle aurait tort de se priver. Tiens, vous êtes sur France Inter et c'est Un Jour dans le Monde.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati. Per l'Europe.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte, comme tous les jeudis. Bonsoir Bruxelles, bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Paris, bonsoir Fabienne.
Quentin, vous allez nous démêler un peu cette affaire d'article 50 et de Cour européenne, parce que c'est un peu abscon pour nous. Le Brexit, pour nous, semble un train lancé à pleine vitesse qu'on n'arrête pas. Est-ce qu'on est en train de nous expliquer le contraire ou quoi ?
Eh bien, en fait, la question n'est pas en elle-même originale, puisqu'elle a beaucoup agité les beaux esprits juridiques bruxellois, sitôt connu le résultat du référendum du Brexit il y a près de 2 ans et demi déjà maintenant. Sachant que l'article 50 du traité de Lisbonne règle le cas d'un pays membre qui veut quitter l'Union européenne, et que cet article prévoit une durée de 2 ans pour régler les modalités du divorce, l'interrogation c'est, est-ce que, une fois le processus lancé, il peut être arrêté avant cette échéance de 2 ans, et peut-on en quelque sorte revenir en arrière ? Or, les rédacteurs du traité étaient convaincus, ils me l'ont confirmé, qu'ils rédigeaient une disposition qui ne servirait jamais. Et évidemment, ils étaient à des années-lumière d'envisager que l'État, sur le départ, hésiterait et éprouverait la tentation du revenez-y. Donc, l'article 50 est muet à cet égard.
Donc, l'avis des juristes, Quentin ?
Eh bien, le consensus parmi les juristes, c'est que la question échappe au droit, puisque le déclenchement de l'article 50 procède d'une décision politique, en l'occurrence celle du gouvernement britannique, et qu'en respectant le parallélisme des formes, une décision politique en sens contraire et provenant de la même autorité peut parfaitement défaire ce que la première décision a mis en route. Et plus personne n'en a parlé pendant 2 ans.
Mais vous allez nous dire que le débat s'est rouvert donc dernièrement.
Oui, c'est vrai, je disais un peu vite sans doute que plus personne n'en parlait. Pas tout à fait, car les associations d'expatriés britanniques, installées dans l'un ou l'autre des 27 autres pays de l'UE actuels, ne décolèrent pas. Ils ne savent pas quel sera leur sort post-Brexit, et ils n'ont même pas pu participer au référendum, alors qu'ils étaient les Britanniques les plus immédiatement menacés par les conséquences du retrait de leur pays. Alors, ils ont multiplié les recours à tous les niveaux, sous tous les prétextes et devant une variété de juridictions. Dans la plupart des cas, ils ont été déboutés ou leur requête a été jugée irrecevable. Mais voilà, une action est en cours, vous le disiez, devant la Cour de justice de l'UE à Luxembourg, et un groupe de Britanniques, emmené par un certain monsieur Whiteman, interroge les juges européens sur le fait de savoir si l'on peut ou non arrêter le processus de divorce entre leur pays et l'UE.
Mais Quentin, pardon, mais quel intérêt, puisqu'on connaît déjà la réponse, non ?
Oui et non, Fabienne. Il y a une différence entre les conversations privées entre spécialistes du droit constitutionnel européen, qui n'engagent qu'eux-mêmes, et un arrêt en bonne et due forme rendu par la Cour de l'UE. Et le fait nouveau, c'est que depuis 2 semaines, Theresa May cherche à convaincre les députés britanniques de voter en faveur de l'accord qu'elle a obtenu à Bruxelles. Et que dit-elle ? Eh bien, que si cet accord est rejeté, il n'y a plus que 2 options, le Brexit brutal, total et immédiat dès le 30 mars 2019, ou plus de Brexit du tout.
Alors, où en est la procédure devant la Cour de l'Union européenne ?
La semaine dernière, l'avocat général y a présenté ses conclusions et il soutient entièrement la thèse de la réversibilité de l'article 50 à la condition que Londres en exprime l'intention avant la fin de la période de 2 ans. Bien sûr, les juges ne sont pas obligés de suivre en tout point l'avis de l'avocat général, mais dans ce cas-ci, il serait vraiment surprenant qu'il le désavoue.
Et quand connaîtra-t-on leur décision alors ?
Tout simplement lundi matin, dès 9h, c'est-à-dire la veille du vote à la Chambre des communes.
Et comme par hasard, on suivra ça évidemment avec grand intérêt, le vote à la Chambre, notamment et surtout même Quentin Dickinson avec nous depuis Bruxelles. L'Europe, on l'aime ou on la quitte, c'est tous les jeudis.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, à moins de 48 heures d'une nouvelle mobilisation donc des Gilets jaunes chez nous en France, que beaucoup redoutent très violente. On va y revenir évidemment tout à l'heure avec Sébastien Paour dans le journal et d'ailleurs dans le téléphone sonne aussi. C'est intéressant de prendre un peu de distance sur le sujet. Vous avez lu 2 tribunes parues ces 2 derniers jours. 2 intellectuels étrangers qui éclairent la crise que nous traversons en France. Et c'est votre monde à l'envers ce soir.
Alors une précision d'entrée, ces 2 tribunes ne sont pas des analyses du mouvement des Gilets jaunes en tant que tel, mais c'est justement ça qui est intéressant. Elles décrivent des phénomènes beaucoup plus larges au niveau mondial et les Gilets jaunes peuvent se regarder à travers ces grilles de lecture. À la plume, il y a 2 intellectuels. L'un, économiste reconnu chilien, Andrés Velasco. L'autre, historien des idées américain, Marc Lilla. Commençons par Velasco. Sa tribune est parue dans la revue Project Syndicate la semaine dernière. Il essaie de comprendre quel est le point commun à tous les mouvements dits populistes qui secouent la planète. Premier constat, dit Velasco, aujourd'hui 1 milliard de personnes, entre les Américains, les Brésiliens, les Philippins, les Turcs, les Hongrois, etc., ont placé leur destin entre les mains de dirigeants se revendiquant du populisme. Au premier coup d'œil, écrit l'économiste chilien, on est tenté de penser que ce phénomène est déclenché par un sentiment d'injustice sociale, une envie de redistribution économique, et d'ailleurs on rejoint bien là une revendication centrale des Gilets jaunes. Sauf que, poursuit Velasco, cette hypothèse ne tient pas à l'examen. Un, les électeurs de Trump, de Bolsonaro, de Orban ne sont pas nécessairement les plus démunis économiquement. Deux, si la redistribution était la revendication centrale, cela favoriserait plutôt la gauche, et ce n'est pas le cas, sauf peut-être au Mexique. Donc, même s'il y a effectivement un sentiment d'injustice sociale, ce n'est pas l'élément central et commun à tous ces mouvements.
Donc l'élément central et commun à tous ces mouvements, pour cet économiste, c'est lequel ?
Alors, Velasco examine une deuxième hypothèse. Ces mouvements seraient nourris par le contre-coup culturel, c'est-à-dire un sentiment de marginalisation. On connaît bien cette perte d'identité face à la mondialisation et aux phénomènes migratoires. Pour l'économiste chilien, c'est déjà une hypothèse plus pertinente. Mais elle n'explique pas non plus que ces mouvements populistes touchent des pays sans immigrés ou quasiment, par exemple la Hongrie ou la Pologne, et elle n'a pas de sens pour décrire la situation aux Philippines ou en Turquie. Andrés Velasco avance donc une troisième hypothèse. Le vrai point commun à toutes ces fièvres populistes, quel que soit le pays, c'est la colère contre l'arrogance des élites. Et c'est bien ça qu'on sent et qu'on entend aujourd'hui en France. L'intellectuel chilien cite des exemples variés. Le dédain d'Hillary Clinton vis-à-vis des électeurs de Donald Trump. La corruption de la classe politique brésilienne. Les habitudes de monopole du pouvoir par les sociodémocrates en Europe pendant de longues années. Autant de traductions du même phénomène. Là, je cite Velasco. Les élites politiques traditionnelles sont de plus en plus coupées du monde réel. Sans changement politique, le populisme va continuer de croître.
Alors, la question suivante, Jean-Marc, c'est d'ailleurs la question qui est posée aux Gilets jaunes aujourd'hui, c'est celle de la tradition politique de cette
colère.
La traduction, politique de cette colère.
Alors, c'est là où ça devient utile de lire cette fois la tribune de Mark Lilla. C'est paru ce matin dans The New York Review of Books. L'intellectuel américain décortique la structuration idéologique en cours au sein de la droite radicale française. Parce que, encore une fois, on est frappé par le fait que tous ces mouvements de colère dans le monde profitent davantage à la droite radicale qu'à la gauche. Ça s'explique en partie quand même par la professionnalisation. La professionnalisation, c'est le mot de l'extrême droite sur les réseaux sociaux avec fausses informations à gogo à la clé. Mais ce que démontre Mark Lilla, c'est surtout le développement d'un corpus idéologique complet au sein de la droite radicale. Le chercheur américain se penche sur la pensée de Steve Bannon, l'ex-conseiller de Trump, qui désormais arpente l'Europe, et sur le travail de réflexion initié autour de Marion Maréchal Le Pen en France. Une conception du monde détaillée, complète. Et là aussi, écrit Lilla, il y a une arrogance des élites françaises qui ne regardent pas ce sujet sérieusement. Ce sont les mots de Mark Lilla. Bannon, qui sera après-demain d'ailleurs à Bruxelles, aux côtés de Marine Le Pen. Bannon donc est regardé avec condescendance. À tort, écrit Lilla, il a de vraies intuitions politiques. Ce que Mark Lilla laisse entendre, c'est que la droite extrême est aujourd'hui l'un des seuls lieux où la politique se pense, se réfléchit vraiment et de plus en plus. Donc c'est mécaniquement le canal politique le plus à même de tirer les marrons du feu de la colère déclenchée par l'arrogance des élites, en France comme ailleurs.
Jean-Marc Fouré, Le Monde à l'envers, merci beaucoup. Les deux articles dont vous parlez, Jean-Marc, ils sont
sur le site de France Inter, bien sûr.
En anglais.
Oui.
Et ouais. Et ben voilà, ça fera travailler un peu. Merci beaucoup et on se retrouve demain. Bien sûr, on reste ensemble avec le téléphone sonne. Alain Touraine est avec nous ce soir pour poursuivre d'une certaine façon, Jean-Marc, la discussion qu'on vient d'avoir ensemble pour analyser avec vous et vos questions le mouvement des Gilets jaunes.